Je vais prendre deux passages pour démarrer ce message. Ça va être un petit peu la plaque tournante, surtout le deuxième. Alors, si vous voulez prendre dans vos bibles, vous pouvez. C'est dans 1 Corinthiens 9, versets 19 à 22, le premier passage. Et le deuxième, c'est Romains 12. Voilà, Seigneur, je prie, bénis encore ta parole. Et vraiment, merci pour sa capacité de créer en nous, de nous bouleverser et de nous transformer. Voilà, 1 Corinthiens 9, versets 19 à 22. Ce témoignage de Paul est remarquable, je trouve. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'étais comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'étais faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, je trouve ça remarquable, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et Paul est bien modeste parce que Dieu s'est servi de lui pour sauver pas quelques-uns seulement. Romains 12, 1 à 2, un texte qui semble venir en contradiction de ce texte-là. Romains 12, et là c'est une recommandation. Ouais, Romains 12, Romain va trouver ça tout de suite. Romains 12, deux premiers versets. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça a l'air en contradiction avec « je me suis fait tout à tous ». C'est une apparente contradiction, mais... Parce que se faire tout à tous, on pourrait penser, bah, il faut se mettre dans le moule du monde, quoi. Non. Ouais. Afin que vous discerniez, oui, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors je crois que, en fait, pour bien comprendre là, il ne faut pas prendre le premier passage comme une recommandation de Paul, mais comme un témoignage de la puissance de Dieu, capable d'avoir fait de lui quelqu'un qui s'est fait tout à tous, pour en sauver plusieurs. Capable de rejoindre toutes sortes de gens complètement différents de lui. Avait-il un expert en communication? Non. Quoique, il y avait le Saint-Esprit, qui est un sacré communicateur, mais enfin bon. Mais aujourd'hui, on dirait, si t'as pas un expert en communication, t'es foutu, hein. Ouais. Non. Et il faut prendre, par contre, le deuxième passage comme une vraie recommandation, offrez vos corps. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Le premier passage parle du fruit remarquable. Hein, on a parlé dimanche dernier du fruit, appelé à porter du fruit. On en voit la démonstration dans le premier passage. Hein. La vie de Paul a porté beaucoup de fruits. La moitié des livres du Nouveau Testament, c'est lui. Il a impacté considérablement autour de lui. Il a bouleversé des villes. Quand il est à Éphèse, toute la ville a été bouleversée. Il a implanté des communautés dans les grandes métropoles, Rome, Éphèse, Thessalonique. Il a transformé ces villes. Alors, en fait, ce matin, j'aimerais prolonger hein, ce message qui a été donné par Jean-Luc dimanche dernier sur porter du fruit, parce que le deuxième passage, pour moi, donne une clé essentielle. Et cette clé, offrez vos corps. Ou dit autrement, mettez-vous à part. Et je suis sûr que c'est ce qui a conduit Paul avoir un tel impact. Le monde dirait, non, non, c'est parce que certainement il avait un expert en communication. Non, c'est sa vie mise à part qui est la clé du fruit dans la vie de Paul. C'était pas sa capacité naturelle à communiquer, comme je l'ai dit, la compagnie d'un spécialiste en communication, une connaissance particulière en méthode, en communication, de stratégie, de méthode, enfin, c'est... non. La clé de du fruit de son ministère, c'était qu'il était mis à part. Et c'est la recommandation qu'il nous fait, dit, offrez-vous. La réponse à l'amour, c'est l'offrande. La réponse à l'amour, c'est l'offrande. Et d'ailleurs, Paul le dit dans Romains 1, il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Galates 1, verset 15, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. La mise à part, c'est d'abord le fait de Dieu, hein, d'accord ? C'est d'abord le choix de Dieu, on l'a dit. Hein. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Bon, peut-être nous, on a répondu, mais Dieu nous a choisis. Hein, le chapitre 15 de l'évangile de Jean. Est-ce qu'on n'a pas aussi à prendre conscience de cet appel? Que nous aussi, nous sommes mis à part. On découvre, quand on est à Dieu, qu'on a été mis à part. Est-ce que vous le croyez? Vous êtes mis à part. C'est le mot saint. Soyez saint comme je suis saint. Saint veut dire mis à part, consacré. Et encouragé par mon ami Jean, hein, qui vient prêcher de temps en temps ici, récemment, au début de semaine, un échange avec lui, qui parlait de témoignages qui l'a bouleversé pendant une semaine. Il a lu un livre en anglais qui n'est pas encore traduit en français, dommage. Et c'est un livre qui s'appelle « Mis à part pour Dieu » et qui était écrit par John Mulindé. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Non? John Mulindé? Ouais. Je vais vous dire qui il est, un petit peu. Ouais. Et son témoignage, il a été tellement percuté, Jean, qu'il m'a dit qu'il allait nous envoyer quelque chose à son sujet. J'ai pas entendu qu'il m'envoie. Je suis allé sur Internet. J'ai tapé John Mulindé, mis à part pour Dieu. Et j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé son cheminement. J'ai trouvé son cheminement. Alors, qui est John Mulindé? Il est pasteur en Ouganda. Et l'Ouganda est un pays d'Afrique qui a vécu une transformation. Je me souviens juste d'un chiffre. C'est que ce pays était au bord de la faillite avec 30% de personnes atteintes du sida. 30%. Et Dieu s'est servi de John Mulindé pour un mouvement de prière, d'intercession dans le pays qui a touché partout se sont levés des groupes de prière, d'intercession et jusque dans le gouvernement. Et il y a des cassettes, j'ai une cassette à la maison, la transformation d'une nation Ouganda. Dieu s'est servi de lui. Et Dieu s'est servi de lui pas seulement pour l'Ouganda, mais pour la France aussi. C'est par sa venue en France, il est venu dans une église à Belleville, près de Paris, en 1998, je crois. Et il a dit, mais réveillez-vous les Français, hein, réveillez-vous là. Le pays va mal, réveillez-vous. Et c'est suite à son appel qu'a démarré tout ce mouvement dont vous avez entendu parler, de prière, 40 jours de prière. Et bien c'est suite à la venue de John Mulindé en France. Que quelqu'un, un petit gars du Nord qui s'appelle Jackie Minard, là, qui a été touché aussi, les belles villes aussi à Paris, mais et les 40 jours ont démarré avec ça. Il y a tout un mouvement d'intercession qui s'est développé en France aussi. Actuellement, c'est plus 40 jours, c'est 21 jours, mais ça tient encore aujourd'hui, 11 ans après, 12 ans après. Et j'ai eu l'occasion de l'entendre, puisqu'il a parlé une fois à une rencontre de pasteurs, je m'en souviens, à Arras. Et il est venu à l'église baptiste de Roubaix aussi. Alors, dans ce que j'ai trouvé sur Internet, c'est remarquable. Donc, si vous pouvez, vous regardez vous-même, vous tapez John Mulindé, mis à part pour Dieu. Voilà, vous allez trouver 13 pages d'un cheminement, de son cheminement, de sa mise à part avec Dieu. Et je crois que ce témoignage est très parlant, percutant, et je vais vous retracer un petit peu son cheminement. Après tous ces événements en Ouganda, hein, où vraiment Dieu a manifesté son désir de l'utiliser pour susciter dans d'autres nations des réveils aussi et susciter un mouvement de prière et d'intercession. Et se trouver aux États-Unis en septembre 2001. Ça vous dit quelque chose, septembre 2001? Qu'est-ce qu'il y avait? Les attentats. Il était juste, il s'apprêtait le 8 septembre, il était dans un hôtel pour préparer des réunions et pour dire ce que le Seigneur lui mettait à cœur. On est venu le chercher pour la première réunion le 11 septembre 2011, 2001, pardon, 2001. Waouh. Alors, il raconte toute sa réflexion dans son hôtel. Et il disait ceci. Il parlait d'un constat qui se faisait alors qu'il se trouvait donc aux États-Unis en septembre 2001, en vue de préparer des conférences sur le réveil de nos communautés. Il faisait ce constat. Partout où je vais, oui, un peu plus fort, d'accord, ouais. Donc, il faisait ce constat dans cet hôtel. Il disait, partout où je vais, il y a des choses dans les systèmes, les traditions, nos conceptions, qui sont comme des obstacles à ce que Dieu voudrait faire. Là même où il y a un fort désir de Dieu, il y a des choses auxquelles on s'accroche tellement fort au point que nous nous demandons comment Dieu va percer et changer. Vous faites ce constat de temps en temps. Il y a des mentalités qui sont parfois comme des forteresses autour de nous, qu'on se dit, mais comment Dieu va faire pour changer ça? Et on est là, quelquefois, au milieu. On dit, mais comment Dieu va faire? Et même l'Église est influencée parfois par ces mentalités. Quelquefois, j'étais tenté de penser que peut-être que le Seigneur va se débrouiller même dans le système tel qu'il est, mais je ressens quand même au fond de mon cœur que ce n'est pas vraiment ce que Dieu veut. Je me souviens de l'Église primitive, tous les défis qui étaient en face de cette Église. Réfléchissez un peu. Et peut-être c'était plus difficile pour eux à leur époque que pour nous à notre époque. Ces personnes devaient aller vers toutes les nations, des pays qui n'avaient jamais adoré le Dieu d'Israël. Certains de ces pays étaient même plus puissants qu'Israël. Il y avait la Grèce, Rome, d'autres pays aux alentours. Et par le témoignage de leur vie et de leurs paroles, ils étaient capables de retourner complètement des villes. Notamment la ville d'Éphèse, Actes 19, 17, 18. Nous aussi, on voudrait, hein, je lis un petit peu toute sa réflexion. Nous aussi, on voudrait faire beaucoup de choses pour Dieu et pour la simple raison, par exemple, d'une limitation financière. Nous ne pouvons pas les faire. Puis notre sécurité dans cette société, c'est un peu cela qui conditionne la façon dont nous vivons notre foi. C'est comme si notre foi était captive du système et des circonstances dans lesquelles nous sommes. Ça vous parle? Vous comprenez? Quelquefois on se dit, ben, comment Dieu va faire? C'est pas possible. Alors il a questionné le Seigneur, il a constaté ça, il a questionné le Seigneur, bien qu'il ait vu dans sa nation un changement, hein, mais par rapport aux autres nations, par rapport à l'Europe, par rapport à certains pays d'Afrique aussi, il était en questionnement. J'ai commencé à demander au Seigneur, alors Seigneur, comment vas-tu faire pour casser ces systèmes? Parce que tu dis dans ta parole que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Âgée de 9. Et beaucoup ont reçu ce texte pour la région, hein. Et on l'a reçu nous-mêmes, un témoin, là. Alors Seigneur, comment vas-tu faire pour que l'Église aujourd'hui puisse s'émanciper de toutes ces contraintes pour faire que la gloire de Dieu vienne briller fortement? Et quelle était sa réponse? Et le Seigneur lui a répondu, lui a dit ceci. Ce ne sont pas les stratégies qui vont changer le monde. Ce n'est pas par des méthodes ou des stratégies que tu vas changer le monde. Tu ne pourras jamais être à jour des changements. quelque chose de différent doit arriver. Alors je dis, Seigneur, quel est le secret? Qu'est-ce qui va marcher? Et l'Esprit du Seigneur m'a dit dans mon cœur, mets-toi à part pour moi. Consacre-toi pour moi. Permets-moi de travailler profondément dans ta vie. Je ferai de toi un vaisseau qui pourra faire ce qui est impossible aujourd'hui. Chaque endroit où tu vas aller, où que tu ailles, il faut maintenant que tu dises, que tu parles à mon peuple, qu'ils écoutent ou pas, il faut que tu leur dises qu'ils se mettent à part. Et Jean qui a lu ce livre pendant une semaine était bouleversé, je dois dire, moi ça a impacté aussi. Je me souviens que John m'avait déjà marqué, John Mulindé, quand il était venu en France. Mais ça semble évident que tout le fruit de la vie de Paul, qui s'est fait tout à tout, ce qu'il en a gagné, sauvé, mais c'est là-bas, c'est sa mise à part. Il a compris qu'il était mis à part, il a dit oui. Et le Seigneur a confirmé ça dans les Écritures. Il lui a montré, il lui a rappelé Abraham, qui Dieu a dit, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte la maison de ton père. Moi, je me souviens, au début de ma conversion, c'était pas évident. Parce que j'ai dû quitter, alors que je suis tellement pour l'unité actuellement, mais j'ai dû quitter mon église catholique, c'était terrible pour ma famille. Mais c'était l'ordre du Seigneur. Mais attention, je ne dis pas maintenant que tout le monde doit quitter son église, du tout. Parce que le Saint-Esprit, il perd. Le Saint-Esprit à d'autres dit, au contraire, il faut que tu restes pour répandre, pour rayonner. Hein. Je veux dire, à l'époque, oulala, j'étais mis en marche de ma famille. Hein, ouais. Après, ça s'est bien passé. Joseph a été emmené sur une autre terre, coupé de toutes ses sécurités. Moïse a été un moment, a dû laisser le peuple là et est allé sur la montagne pendant 40 jours. À tel point que les autres, ils se demandaient quoi. C'est là qu'ils ont commencé à faire le veau d'or. Hein. Samuel a été mis à part par sa mère Anne dans un temps de stérilité spirituelle où il est dit que Dieu ne parlait pratiquement plus. Et John Mulindé, dans son hôtel, a réfléchi à tout ça, il a réfléchi à la période de Samuel. Il a étudié ça. Dans cette situation, dit-il, comme j'étudiais ces passages, le Seigneur m'a rappelé qu'il y a certaines situations où, quel que soit notre degré de prière, Dieu ne va pas venir et bénir nos prières, à moins que nous-mêmes, nous nous offrions pour devenir un vaisseau différent, un outil différent pour lui. Certaines situations dans lesquelles nous sommes, Dieu ne peut pas venir pour verser du vin nouveau dans des outres anciennes, parce qu'il a besoin d'outres neuves. Et non pas de rester dans une vieille outre. Alors comment changer notre outre intérieure? Et c'est là qu'il faut se mettre à part. Sortir du système ordinaire. Les choses qui nous tiennent en arrière, des choses qui sont devenues des habitudes pour nous, qui sont peut-être une façon pour nous de vivre notre foi, mais qui peuvent nous couper de la gloire de Dieu. Et le Seigneur, après, on est venu le chercher et on lui a dit, tu sais ce qui se passe, John? Ouais, il y a des avions qui sont rentrés dans les tours, etc. Et Dieu a continué à lui parler à travers ces attentats notamment. Et Dieu l'a amené à réfléchir à propos des pilotes des avions qui ont renversé les tours. Il dit, mais comment ça se fait alors qu'ils étaient là, à 50 mètres de la tour, qui se sont pas dit, mais enfin non, c'est idiot là, je vais rentrer dans la tour, non, comment ça se fait? Qu'ils n'ont pas dévié de leur trajectoire au dernier moment quand même. C'était terrible d'aller s'enfoncer dans cette tour. Non, parce qu'il y avait des années de préparation, de programmation. Ils se sont mis à part pour cette mission pendant des années. Ils l'ont fait pour le mal. Dieu nous appelle à le faire pour le bien. Après, il a regardé le témoignage des pompiers de New York le courage des pompiers, notamment. Il a vu la scène à la télévision d'un pompier qui était épuisé, tout plein de poussière, et puis les autres autour disaient « Allez, repose-toi un peu ». Et puis ce pompier disait « Non, 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 je crois qu'il y a encore quelqu'un là-bas, il faut que j'y aille ». Et John s'est dit « Mais bon sang, ouh, quel noble caractère ce pompier ». Et à ce moment-là, l'Esprit Saint lui a dit « Ce n'est pas une chose qu'il a décidé de faire ce matin ». Cela fait des années qu'il a choisi cette profession. Il savait que c'était un choix dangereux. Il voulait y aller pour sauver des gens. Il avait reçu un entraînement pour ça. Cela a pris des années pour que ses pensées soient fixées sur ce but. Peut-être qu'il n'avait jamais pensé imaginer un tel désastre, mais à ce moment-là, il était prêt. Pourquoi ? Parce qu'il avait ce temps de préparation. Il s'était engagé. Tout était programmé. Et le Seigneur m'a dit à ce moment-là, dit John, mon église n'est pas encore prête. Elle n'est pas prête pour les changements qui sont à venir. Ces changements vont être si forts qu'ils vont nous emmener vers des périodes d'épreuves si difficiles que vous pourrez ne pas tenir. Tous ces changements vont secouer tout ce à quoi vous êtes habitué. Vous ne serez pas capable de tenir. C'est pourquoi je vous appelle maintenant à vous mettre à part. Je veux marcher, travailler dans vos vies pour vous préparer. Je continue avec son cheminement. Ça va, ça vous percute, c'est intéressant. Hein, c'est, je vous assure qu'on n'est pas, indifférent à un tel cheminement. Et le Seigneur l'a conduit encore dans les Écritures et lui a dit, il faut que tu étudies maintenant les principes de vie des Nazaréens. On parle de ça un peu dans l'Ancien Testament, un tout petit peu encore moins dans le Nouveau Testament. Les Nazaréens, c'est des gens qui se mettaient à part. Alors ils laissaient pousser leurs cheveux, ils s'abstenaient de boissons enivrantes, ils ne devaient pas toucher des cadavres, enfin bon, c'est un peu... Mais ils se mettaient à part. Alors je ne vais pas aller trop profondément là parce que je vais prendre trop de temps. Mais John Mullinder a cherché la définition du mot Nazaréen. Et vous allez voir, c'est très parlant. Le mot nazaréen a deux racines. Il s'écrit avec un zi ou avec un za. Il y a une racine qui est nazir et l'autre racine c'est nazar. Nazir signifie séparé, purifié et préparé pour être un reflet de la gloire de Dieu. Et dans le mot nazaréen, il y a cette idée d'être mis à part, purifié, nettoyé, préparé pour refléter la gloire de Dieu, dans l'autre racine, pardon, donc qui est Nazar, cela veut dire aussi mis à part, consacré, mais ça veut dire aussi élevé au-dessus des autres, une personne à qui l'autorité est donnée sur le pays. Voilà, ça parle. Hein. Cet appel à nous mettre à part dans notre vocation à être saint, à participer à la sainteté du Seigneur, ce Nazaréen, issu de Nazareth, mais aussi nazaréen dans ce sens qu'on vient de voir. On est tous appelés à être mis à part pour qu'il nous purifie et pour recevoir une autorité nouvelle pour le pays, pour changer les choses. Si nous nous mettons à part, alors le Seigneur utilise nos vies pour ébranler ce qui nous paraît impossible. Ce que nous voyons impossible dans notre pays, les systèmes, les traditions, les obstacles, une vie mise à part peut les briser. Alors en septembre 2001, après ces découvertes là sur le mot nazaréen, alors qu'il a dans son hôtel, là, le Seigneur lui a dit, tu as vu les changements qui se sont produits dans ta nation, en Ouganda. Quand tu t'es mis à part, je te demande de te mettre encore à part pour moi, afin que je puisse t'emmener plus loin encore. Que je puisse travailler encore plus fort en toi. Et John Mullinder a dit, bon, ok Seigneur, comment je commence? Et le Seigneur lui a posé une question. Et lui a dit, sois sincère avec toi-même. As-tu vraiment fait le meilleur pour moi? Est-ce que tu peux dire que tu fais au mieux pour moi? Alors ensuite, voici ce qu'il dit, John. J'ai commencé à réfléchir. Je voyais déjà 1, 2, 3, 4 aspects de ma vie où je savais que je pouvais faire mieux. Mais j'étais resté en arrière. Et soudain, j'ai pensé à un 5e, puis un 6e, puis un 7e. Oh mon Dieu ! Des choses auxquelles j'avais même pas pensé. J'en étais arrivé au numéro 15, 17. Si dans tous ces domaines de cette liste, je me retiens, comment puis-je te dire, Seigneur, que je t'aime de tout mon cœur ? Et soudain, a-t-il dit, j'ai réalisé que le monde voyait en lui quelqu'un de consacré, mais que lui voyait bien des domaines où il se retenait, où il était en arrière. Donc j'avais commencé à faire une première liste des domaines où il y avait problème. J'en étais à ma 3e liste quand le Seigneur m'a dit, ce sont les idoles dans ton cœur. Il m'a emmené dans le verset 4 d'Ézéchiel, chapitre 14. Le Seigneur reproche à Israël toutes les idoles qui sont dans leur cœur. Ce ne sont pas les images devant lesquelles ils se prosternaient, c'était vraiment les choses qui étaient dans leur cœur. Ce sont des choses que tu adores en dehors de moi, des choses que tu aimes plus que tu ne m'aimes. Ce sont des choses qui te séparent de moi. Et quand on comprend un peu mieux, quand Paul dit « Toute chose c'est comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ », on peut dire que lui, il est allé jusqu'au bout de son cheminement. Ce sont ces choses-là qui t'empêchent d'être vraiment excellent dans l'appel que j'ai pour ta vie. Le monde a changé. Ces choses-là qui sont en toi, si tu les gardes, le monde va s'en servir comme point d'accès dans ta vie. Cela va te retenir en arrière. Tu veux m'obéir, mais ces choses vont être un frein. Tu veux être excellent, mais ces choses te retiendront et même te feront tomber. Plus le monde change, plus ces choses-là sont fortes dans ta vie. Aussi, elles ne sont pas visibles, mais demain, elles vont sortir comme de vrais problèmes. Et aujourd'hui, tu sembles être fort. Demain, chacun verra que tu ne peux pas tenir. C'est pour cela que je te dis, mets-toi à part. Permets-moi de travailler en profondeur dans ta vie. Cela nécessite une seule chose, aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est là ton appel. Et un peu plus loin encore, John Bulinder est allé aussi encore dans les Écritures. Il a fait la comparaison entre les deux rois d'Israël, David et Saül. Tous les deux étaient des gens qui s'occupaient de troupeaux. Ils étaient pasteurs avant de devenir roi. Tous les deux ont eu l'onction de Dieu par le même prophète. Lorsqu'ils ont été oints, des paroles de prophétie ont été prononcées sur tous les deux. Tous les deux ont été des rois. Ils ont gouverné Israël. Tous les deux ont péché devant Dieu. Tous les deux ont confessé leur péché devant Dieu. Mais Dieu a pardonné l'un et a rejeté l'autre. Et le Seigneur, dit John, me refaisait voir la vie de Saül et de David. Et de David, il a dit, c'est un homme qui a mon cœur. Mais Saül, regarde ce qu'il a fait faillir. On voit qu'à chaque fois, il y avait de bonnes excuses. Mais la vraie raison, c'est qu'il idolâtrait les hommes plutôt que Dieu. Il était trop attaché à l'image qu'il voulait avoir aux yeux des autres. Et cela l'a fait chuter. Alors je termine sur ce cheminement, n'entends pas des klaxons, j'espère que ça signifie pas que... On verra bien. Voilà. Avec ces quelques mots de John Mullinder, il a dit « Dieu nous appelle à revenir à lui. » Peut-être cela nous fait peur, mais dans sa présence, on a tout. Et Dieu nous dit « Viens, sépare-toi des idoles, permets-moi de faire ce que tu ne peux pas faire toi-même. » Alors j'utiliserai ta vie pour toucher ton pays. Mettons-nous à part ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Dieu le fera. Beaucoup ont dit, c'est incroyable ce que Dieu a fait dans ta vie, enfin pour le pays grâce à toi. Beaucoup disaient ça à John. Non, il dit, c'est Dieu qui a fait en moi, c'est pas moi. Par ma mise à part, c'est Dieu qui l'a fait. Alors vous comprenez que Le but de notre mise à part, c'est quoi? C'est notre transformation. Comme dit Paul, soyez transformés. Le but de notre mise à part, c'est notre transformation pour qu'on reflète la gloire de Dieu. Encore une fois, voyez le fruit que ça a porté dans la vie de Paul. Voilà, j'en termine. Dieu a une destinée pour nos vies. Est-ce que nous sommes d'accord pour l'apprendre en lui disant oui à son appel à être mis à part? Ou est-ce qu'on veut rester en arrière? Alors bien sûr, ce oui va nous conduire peut-être, certainement même, à une discipline de vie sous sa conduite. Hein. Peut-être une plus grande vigilance aux excès de table. Peut-être plus d'exercice physique. Moi, je me remets depuis 2 ans à faire du jogging. Je crois que le Seigneur qui m'a dit, allez, remue-toi, vas-y. J'ai failli tout arrêter il y a 3 mois tellement j'avais mal. J'ai dit, non, je ne pourrais plus continuer, donc je vais arrêter. Puis une petite voix m'a dit, mais enfin, je te demande de continuer. J'ai persévéré, puis maintenant, je fais 4 kilomètres, je n'ai plus de souffrance, ça va très bien. Voilà, donc c'est un exemple d'encouragement. Hein. J'avais laissé le jeûne aussi. Et le Seigneur est en train de me reprendre dans le jeûne et ça me fait du bien. Ah, à la fin d'un jeûne, dans la prière, les choses deviennent plus claires, mes pensées deviennent plus claires. Je retrouve plaisir à jeûner, même si je ne jeûne pas encore beaucoup, hein, attention. Hein. Et vous voyez, ce oui, peut-être va nous amener à une discipline de vie. À pas nous laisser aller hein, toute la journée devant la télévision et puis à se goinfrer. C'est sûr, hein, ça, je crois que peut-être un peu moins de sommeil. Peut-être le Saint-Esprit va te toucher le matin, là, 4 heures une fois du matin, allez, lève-toi. Non, Seigneur, je peux encore attendre 1 heure ou 2, mais si c'est le Seigneur te le demande, lève-toi. Lève-toi, ouais. Mais il y a tellement une joie, hein. Il y a une joie d'être au service du Seigneur. Encore une fois, il faut privilégier l'attitude de cœur, hein. C'est pas des règles. Mettre à part, c'est pas des règles pour faire plaisir à Dieu, c'est l'attitude de cœur. Hein. On veut être libre pour lui, pour le servir. Alors si vous voulez pas rester en arrière, ben, je vous invite à vous lever maintenant, d'accord? À vous lever et puis à lui dresser une prière sincère qui vient de vos cœurs. Je vous demande pas forcément des grandes déclarations. « Oh, Seigneur, je t'offre ma vie. Moi, je n'y vais pas tout de suite comme ça parce que je sais qu'il y a encore des choses qui me retiennent. Hein. Hein, et puis le lendemain matin, on se casse la figure tout de suite. Non, je crois qu'on vient devant le Seigneur en toute modestie, humilité, mais avec ce désir d'avancer. Et je vous invite juste ce geste de tendre vos 2 mains là, comme ça devant vous, pour dire, bah, Seigneur, je veux bien avancer. Je veux bien avancer dans cette mise à part. C'est ma vocation, que je le veuille ou que je le veuille pas, le Seigneur m'a mise à part. Ça veut peut-être dire que je vais devoir me mettre à l'écart de temps en temps, c'est clair, je vais devoir faire attention à pas être dans la course tout le temps. Ouais. Je vais devoir me tenir à l'écart, voilà. On vient les mains ouvertes en signe. Tu peux rester assise, pas de problème Odette, tu peux rester assise. Oui. Donc les mains ouvertes en signe de disponibilité. J'ai compris ce matin, Seigneur, que c'est ma mise à part qui pourra faire que les choses vont changer. Je le comprends ce matin. Je le comprends. Ça ne veut pas dire que je vais négliger les outils que le Seigneur me donne aujourd'hui, mais ce n'est pas ça le moteur, c'est ma mise à part. Ouais. J'ai compris ça ce matin, Seigneur. Alors, voilà, Seigneur, je sais qu'il y a des domaines où je me retiens, mais je veux te permettre de me révéler ces domaines et de m'apprendre à avancer dans cette mise à part. Je suis d'accord pour prendre des temps à l'écart, pour te laisser sonder mon cœur, pour révéler les idoles dans mon cœur. C'est pas moi qui t'ai choisi, Seigneur, c'est toi qui m'as choisi. Et tu me demandes d'aller, de porter du fruit. Il y a tellement de choses qui me retiennent en arrière, tellement de choses qui nous empêchent de devenir excellents dans ces domaines. Seigneur, pardonne-nous pour ce qui est dans nos cœurs. Pardonne-nous de nous retrancher, de nous retenir en arrière. Pardonne-nous de ne pas comprendre complètement. Nous te le demandons dans le nom de Jésus, Seigneur, travaille dans nos vies. Donne-nous la volonté de nous mettre à part. Apprends-nous, Seigneur, ce que nous ne savons pas faire. S'il te plaît, aide-nous. Aide-nous, montre-nous ce qui fait obstacle dans nos cœurs. Donne-nous de comprendre que les murs et les systèmes, je ne pourrais pas les casser par moi-même, mais c'est toi qui vas le faire à travers ma mise à part. Si l'un ou l'autre veut compléter par une prière, ensuite j'aimerais donner un autre accent un petit peu. Mais si l'un ou l'autre veut exprimer à haute voix sa prière sincère, bah qu'il le fasse. Hein, ouais. Oh Seigneur, oh Seigneur Jésus, oui. Voilà, tu vois, Seigneur, tous ces cœurs sincères, là, ici. Ces cœurs sincères devant toi, tu les vois. Viens les aider. Viens nous aider. Viens nous remettre en marche. Viens nous montrer comment appliquer. Je suis loin d'avoir développé tout, donc Seigneur, montre comment appliquer ce oui, cette réponse. Comme tu as cheminé avec ton serviteur John Mulindé, chemine avec nous, Seigneur. Et alors qu'on était axé un petit peu vendredi soir à la maison de prière sur cette direction de la mise à part, il y avait Jean qui avait prié, qui avait reçu la prière d'Anne pour Samuel. Et Anne qui priait de tout son cœur vraiment pour pouvoir enfanter, voire donner naissance. Et une fois que cet enfant est venu au monde, elle l'a consacré à Dieu. Et aussitôt que j'ai entendu cette prière, c'est comme si le Saint-Esprit me disait, il faut que l'Église crie son désir à Dieu d'enfanter une nouvelle génération de jeunes mis à part. Et toute la dernière demi-heure, voire les derniers trois quarts d'heure, on a intercédé pour les jeunes. Et pendant qu'on intercédait, il y avait des prières d'humiliation, parce que Dieu était en train de nous transformer, de transformer notre regard sur les jeunes aussi. Quelquefois, on a un regard d'incrédulité. On ne croit pas que Dieu peut lever une nouvelle génération. Et on a besoin d'un esprit de foi. On a besoin qu'un esprit de foi nous inonde pour remplacer cet esprit d'incrédulité qui fait qu'on ne croit pas que Dieu peut lever une nouvelle génération de jeunes qui se mettent à part. Vraiment. Pour Dieu. Et peut-être, on peut terminer là-dessus, juste quelques voix qui s'élèvent pour appeler, comme Anne a appelé la naissance, a appelé à demander à Dieu, je t'en supplie, envoie, donne naissance à cet enfant, que je puisse donner naissance, qu'on crie à Dieu, Seigneur, on veut voir une nouvelle génération de jeunes qui se mettent à part pour impacter ensuite vraiment le monde. Amen. Peut-être, allez, quelques-uns, je voudrais pas être le seul à prier. Hein. Voilà, allez, quelques voix qui s'élèvent. Si vous êtes d'accord pour demander ça comme Anne l'a demandé.